un homme fidèle à Dieu et qui a choisi de servir le Seigneur à la Sebeka Gomaville. Sous votre applaudissement, nous appelons le pasteur Festo jusqu'à ce qu'il arrive. Wow! Que Dieu vous bénisse, pasteur. Kari Boussan. Bienvenue, pasteur. Vous me mettez ici. Ensuite, je vais appeler un entrepreneur de la ville de Goma. Lui-même va se présenter. C'est un homme sage. Il est près de la jeunesse. Il est un grand homme. Monsieur Bukundika Mangolopa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wow! Karibou Sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensuite, pour finir, je vais appeler une femme exceptionnelle, une femme soumise, une femme vertueuse, excellente dans son travail, intelligente. Elle est mariée à un seul homme, elle s'appelle Judith Sivanziré. Elle va s'approcher. Bienvenue, bienvenue madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis moi, Annette. Wow. Bonjour, pasteur.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, oui.
Bonjour, papa Bukundika.
Bonjour.
Tout va bien?
À merveille.
Bonjour, madame Judith.
Bonjour, Annette.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien.
D'accord. Sans plus tarder, nous voulons entendre quelques choses de votre histoire. Vous allez nous partager. Nous dire d'abord votre parcours académique, scolaire, votre niveau d'études peut-être. Nous allons commencer par le pasteur.
Merci beaucoup pour la parole. Bien-aimé, bonjour.
Bonjour.
Le nom c'est Festo Tsongo. Je suis certifié d'école primaire d'application Mabono. Je suis diplômé d'État en technique vétérinaire. Je suis gradué en théologie, orientation théologie pratique. Je suis licencié en théologie, orientation théologie du Nouveau Testament, plus spécialement l'exégèse des écrits johanniques. Les écrits johanniques, là nous attendons l'évangile des Jean, les épîtres des Jean et l'apocalypse des Jean. Je suis aussi, depuis 2022, détenteur de diplôme de master, toujours en théologie et dans le même domaine que je viens de citer. Maintenant, je suis étudiant en thèse dans le même domaine.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, Papa Bukundika, vous allez nous parler un peu de vous, de votre parcours. N'importe quoi.
Ok, merci beaucoup. Je suis certifié à l'école primaire Majengo. C'est là où j'ai mon certificat d'études primaires. Ensuite, j'ai fait le parcours secondaire. J'ai commencé d'abord à Litige, après j'ai quitté Litige pour Kinshasa, où j'ai obtenu mon diplôme d'État en maths physique. Après cela, j'ai fait beaucoup d'universités au Rwanda. Bon, j'ai commencé par l'IBTP, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas parce que j'étais bourrique. Ça n'a pas marché parce que Mobutu a été bousculé par les événements et on a fermé l'université. Je suis allé au Rwanda. Là encore, les événements ont rattrapé avec ce qui s'est passé en 94. J'ai quitté le Rwanda pour l'Ouganda où j'ai obtenu mon diplôme d'architecte, quoi. Et je suis entrepreneur. J'ai créé beaucoup d'entreprises, surtout des entreprises de construction, dans l'hôtellerie et dans l'agribusiness. Donc, c'est un peu ça mon parcours universitaire et primaire, mais c'est une longue histoire. Je ne vais pas gâcher notre temps ici. Je passe le micro à madame.
Merci beaucoup. Bienvenue, madame Judith.
Merci, madame Annette. Bonjour à tous.
Bonjour.
Oui, du nom, je suis Judith Baléroy. Elle m'a appelée Judith Sivanzire parce que je suis mariée à mon mari qui sert dans la chorale, nouvellement mariée. Pour mon parcours, je suis certifiée de l'école primaire et à l'MP Kauta. J'ai fait secondaire à l'Institut Metanoia, option latin philo. À l'université, je fais le droit privé et judiciaire. J'ai essayé l'entrepreneuriat à un moment et actuellement, je suis avocate au barreau du Nord Kivu. Je suis jeune innovatrice dans un programme de laboratoire de jeunes piloté par Paul Institute. Et depuis peu, je suis chargée de projet adjointe dans un projet de conclave de jeunes sur l'environnement. Merci.
Wow, quel parcours exceptionnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, nous avions 3 catégories de panélistes. L'un qui a fini son doctorat, l'autre qui a fini sa licence et l'autre qui était cascadeur. Et donc, une question s'est posée le dimanche passé de savoir, bon, apparemment, l'étude, ce n'est pas vraiment la clé ou l'élément essentiel pour réussir. Ce n'est pas quelque chose qui nous garantit la réussite dans la vie. Alors, faut-il étudier ou faut-il déjà commencer à chercher l'argent au lieu de passer tout ce temps à l'école? Papa Bukundika.
Il y a à manger et à boire dans cette histoire. Pour moi, l'étude, c'est vrai, ce n'est pas la clé à la réussite. Ça, c'est très vrai. Nous le voyons dans tous les coins de la ville, partout au monde. Ce n'est pas seulement à Goma, partout. Mais c'est très important l'étude. Le problème, c'est que la plupart des gens étudient sans savoir pourquoi ils étudient. Ça, c'est le premier problème. Et quand on étudie des histoires qui ne vous servent presque à rien. Je donne un exemple simple. Combien sont passés par l'école secondaire? Qui a un agenda parmi vous? Vous voyez les mots. Ça, ça trouve qu'ils n'ont pas étudié. Quelqu'un qui a tenu le journal de classe doit avoir son agenda pour voir comment il va planifier sa journée. Mais il termine l'école sans savoir comment utiliser l'agenda. Ça devient un problème. Et à la fin de l'année, vous lui certifiez, il n'y connaît rien. Deuxième problème qu'on donne à l'éducation, ce sont des histoires qui n'ont pas de tête et de pied. La plupart ont fait des écoles secondaires, je vois ici. Demandez qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Diego Kao. Et on lui donne 10 sur 10. Vous imaginez les bêtises qu'on nous enseigne? Et on paye pour ça. Et vous voulez avoir des gens qui vont diriger ce pays? Non. Avec tous les licenciés que nous avons en français, tous les gradués que nous avons en histoire, ils n'ont pas dit un simple ajustement de formulation. Le premier Européen à fouler les pieds à l'embouchure du Congo, c'est Diego Kao. Ça, c'est correct. Mais quand il me dit qu'il a découvert l'embouchure du Congo, je me dis non. Il y avait le peuple congo là. Donc, ils étaient tellement aveugles pour ne pas voir l'embouchure. Ou ils étaient tellement idiots pour ne pas connaître qu'il y a de l'eau là. Non. Vous comprenez? Et avec ça, l'étude devient un problème. Surtout quand le cursus n'est pas bien réfléchi. J'ai été avec les enfants de l'Ecodim il y a quelques semaines. Il y a un ami qui me dit, il ne faut pas mettre des plantes dans la maison parce que ça vous asphyxie. Je me suis dit, qui vous a dit ça? L'enseignant de l'école primaire. Ok. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi les pygmées ne meurent pas parce qu'ils sont en pleine forêt équatoriale? Ils sont pacifiés, pourquoi? Il m'a dit non, parce qu'il a donné des réponses un peu vagues. C'est ça le problème avec l'éducation que nous avons. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment la clé. On vous donne des choses, mais on ne vous donne pas de réfléchir. Quand vous avez une éducation de mémoire, vous devenez intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent. Il y a une grande différence. L'intellectuel, c'est celui qu'on bourre des histoires, et il avale, il va les recopier. Il va faire des analyses. Mais un intelligent, c'est quelque chose de très différent. Quand on est intelligent, on produit. Heureusement, j'ai avec moi celui qui a fait la littérature. Quand on dit intelligente, intellect généré. Ça veut dire générer, engendrer. Donc, quelqu'un qui a l'intelligence, qui génère, qui engendre, c'est celui-là l'intelligent. Mais vous avez des gens qui ont des diplômes, j'ai étudié dans plusieurs universités et il n'y a qu'au Congo où on vous donne toute une période de mémorisation qu'on appelle blocus. Vous bloquez quoi? On ne vous demande pas de réfléchir. On vous demande de mémoriser ce que l'Européen a écrit et vous le reproduisez texto. Alors là, ça devient un problème. Vous arrivez dans une entreprise, on n'a pas besoin de ce genre d'hommes. Si vous venez chez moi avec les doctorats, avec la mémoire, je vous donne. Tu sais, le valeur qu'on peut donner à quelqu'un qui est comme ça, toute sa vie, lui, il paye $300, c'est fini. Toute sa vie. Pourquoi toute sa vie? Parce que tout ce qu'il a comme connaissance, je peux le trouver dans une encyclopédie de $300. Pourquoi lui donner $200 chaque mois? J'achète une encyclopédie de $300, j'ai toute sa connaissance et tout. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas la clé. Mais l'étude, c'est important. Parce que ça vous donne l'intelligence sociale. Quelqu'un qui a étudié a l'intelligence sociale, c'est-à-dire il peut vivre avec ses voisins, il peut savoir comment se comporter dans diverses situations, il peut parler aisément sans crainte. Au fait, l'étude, c'est comme un escalier social. Ça vous permet de vous positionner sur le plan social. Si vous manquez ça, c'est tout un problème. Attaquez étudiants, étudiez, mais pas pour avoir la clé pour la réussite, mais pour avoir des connexions dans la société. Alors, si vous êtes étudiant et vous manquez de connexion, vous avez déjà échoué votre étude.
Ouais.
Voilà. Ce n'est pas la clé, mais c'est intéressant d'étudier et d'avoir beaucoup d'amis à travers le monde.
Oui, oui. Merci beaucoup, Papa Bukundika. Alors, Papa Pasteur, dites-nous, de l'école vétérinaire jusqu'à la théologie, qu'est-ce qui s'est passé?
Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui est noble, mais avant d'y arriver, je pouvais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce que l'architecte vient de dire. Je crois que nous ne l'appelons pas architecte parce qu'il a le diplôme d'architecture. Mais nous l'appelons architecte parce que nous avons vu une maison qu'il a... il a fait l'architecture d'une maison et nous voyons réellement qu'il est architecte. Les études sont très importantes si nous les étudions pour comprendre ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être dans la vie. Mais si nous étudions pour avoir des diplômes, là nous sommes en train de planifier notre échec dans la vie. En fait, je reviens maintenant à la question que vous venez de poser, de vétérinaire, théologien et pasteur. En fait, c'est une question qui peut, je peux prendre un peu du temps, mais je vais prendre les grandes parties. La fonction de pasteur, même si toutes les options qui peuvent être étudiées dans la vie sont une vocation, mais il y a une vocation particulière par rapport à la pastorale. Par rapport à la pastorale, il y a une vocation particulière. Depuis ma naissance, bon, là, je vous parle de ma vie. Depuis ma naissance, j'ai été à l'école de dimanche comme la majorité d'entre vous. Chaque fois que j'ai été à l'école primaire, à l'école de dimanche, le soir, je reproduisais tout ce que nous avons suivi à l'école de dimanche. Et je ne le reproduisais pas seul. J'étais à mesure d'amener plusieurs personnes, plusieurs enfants de mon âge, même le plus âgé que moi. Je les organise autour de la parole que nous avons reçue à l'école de dimanche. Alors, malgré mon âge, je pouvais le faire, je fais tous les cultes que nous avons faits, même les communiqués qu'on a fait passer à l'église, je les faisais passer ce soir-là. J'organisais même les cultes de porte à porte et je faisais donner les offrandes. Vous allez donner les offrandes parce que là où il y a un culte, on doit donner les offrandes.
Exactement.
Et vous allez poser la question, qu'est-ce que je faisais de ces offrandes-là?
Voilà.
Oui. Je cherchais une vieille dame, elle est déjà décédée, une vieille dame qui était resté seul dans une maison. Et c'est pour cette dame-là qu'on amenait les offrandes qu'on récoltait. Et cette dame nous bénissait. Cette dame me bénissait, me bénissait. Et j'ai compris que cette bénédiction m'a poursuivi. Voici comment j'ai fait l'école vétérinaire. Peut-être que plusieurs parmi vous aussi sont en train de faire des options de la manière dont moi aussi je l'ai faite. Il y a eu un slogan chez nous à la maison, « Est technicien vos 32 pédagogues ». Mon père était pédagogue, mon frère aîné était pédagogue, celui qui venait après lui était aussi un pédagogue. Alors, l'option vétérinaire, c'est une option technique. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas être un pédagogue comme mon père, comme mes frères. Je dois être vétérinaire parce que un technicien vaut 32 pédagogues. C'était ça l'objectif d'être vétérinaire. Pour que si je suis à la maison, il faut au moins 32 autres personnes pour que ces gens-là, et mon père et mes frères, soient l'égal de moi. J'étais intelligent même à l'école. Je suis sorti même le premier aux examens d'État. Mais je vous assure, je n'ai jamais exercé cette fonction de vétérinaire. Je ne l'ai jamais exercé. Voici comment je suis devenu maintenant, voici comment je fais la théologie. C'est spécial, je vous ai déjà dit que c'est une vocation qui est spéciale. Ça ne dépend pas aussi de l'âge. Dieu peut vous appeler à 60 ans pour que vous soyez pasteur, pour que vous soyez son serviteur. Il peut vous appeler à 10 ans, il a appelé même d'autres étant dans le ventre de leur mère. Après l'école secondaire, je suis tombé malade. D'ailleurs, toute la sixième année, je n'avais pas la capacité de mémoriser comme l'autre venait de le dire. Le diplôme que j'ai eu, étant même le premier en classe, je l'ai eu sans avoir lu mes notes. Parce que ce qui restait dans ma tête, c'est ce que j'écoutais de l'enseignant. Si j'arrive à la maison, je lis. Rien ne pouvait rester dans ma tête. C'était une maladie. Et Dieu peut-être, c'est aujourd'hui que je comprends que c'était une maladie divine peut-être, qui vient de Dieu. Un jour, j'étais en train de lire la Bible, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sens que je suis malade et peut-être je vais mourir. Il faut que je lise la Bible. Et je vais ouvrir la Bible sans tenir compte de savoir où je vais lire. Le verset que je vais ouvrir, le premier, et mes yeux vont tomber sur ce verset, je vais le lire. Et ça va me guider. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je m'étonne comment cela est arrivé. J'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur 1 Timothée chapitre 3, et je lis. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'était ça le verset. J'ai compris que le Seigneur était en train de me chercher. Et quand papa m'a dit, tu vas faire maintenant quelle faculté? Sans hésiter, je lui ai dit, je fais la théologie. Je suis allé à Boutembo, à la faculté de théologie à l'ULPGL. J'ai été le seul candidat en faculté de théologie. Dans toute une filière, j'étais le seul candidat. Et pour montrer que c'est Dieu qui m'a appelé, là, on m'a dit, comme tu es seul, on n'enseigne pas. Soit tu rentres à la maison ou tu vas faire ce que tu veux. Le lendemain, on me dit, il y a une faculté de théologie à Goma. Et je trouvais le véhicule sans payer, sans faire quoi. Tout ce que tu ne peux pas sortir d'ici jusqu'à Goma, jusqu'à Boutembo sans payer. Le véhicule, miraculeusement, a été trouvé. Et je suis venu à Goma. C'était un certain samedi. Et le lundi, je suis allé à la faculté. Et jusqu'aujourd'hui, je suis le prof de la faculté et je suis pasteur. Et maintenant, à partir du moment où j'ai commencé la faculté de théologie, cette maladie a disparu. Je me suis dit peut-être que le Seigneur est en train de m'appeler petit à petit pour que je sois réellement entre ses mains. Et c'est pourquoi il n'y a pas un autre domaine où je me trouve à l'aise si ce n'est pas la pastorale. je me sens à l'aise. Je peux intervenir dans d'autres choses, mais là où je sens que je suis appelé, c'est la pastorale. Voilà un peu comment je suis venu jusqu'à
la faculté. Merci, merci beaucoup, pasteur. Et vous, madame Judith, vous avez fait littéraire, ensuite le droit. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le droit? Parce que bon, on peut choisir toute autre chose, comme le pasteur, il a fait vétérinaire, il est devenu pasteur. Et vous pourriez faire autre chose à part le droit. Alors, quels sont les avantages pour vous de choisir le droit et comment est-ce que vous pouvez orienter ceux qui sont sur cette voie-là?
Merci. Je savais que je ferais le droit depuis que j'étais enfant. D'abord, pour ce qu'on nous a dit le dimanche passé, pour les capacités qu'on a, je réussissais plus dans les notions en français qu'en mathématiques. Donc, je savais que tout ce qui va avec le maths ne marcherait pas avec moi, mais aussi pour un souci de justice sociale. Voilà. Ça tient à l'environnement dans lequel j'ai personnellement grandi et j'ai éprouvé ce besoin de contribuer à établir une certaine égalité de justice en société. Ce qui m'a directement orientée vers le droit, à ceux qui veulent choisir. Le conseil, c'est le même que le dimanche passé, de faire ces mariages entre les compétences et la passion. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui vous appelle, en fait, à réagir, qui peut être identifié comme un problème autour de vous? Lorsque vous avez trouvé ça, regardez tout ce que vous avez comme atout et choisissez une faculté. Développer aussi des projections et des visions, ça vous permet de rester sur le cap tout au long du parcours.
Oui, merci beaucoup, merci. Madame Judith. Maintenant, on va parler un peu avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs, nous sommes là. Mathieu Kidoleul. Voilà. Alors, Papa Bukundika. Papa Bukundika.
Oui, moi.
Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut entreprendre, mais qui étudie encore?
Qui étudie encore?
Oui.
La piège des études encore. Si vous êtes entrepreneur, commencez maintenant. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 9 ans. Oh. Ah oui. J'étais encore à l'école primaire. J'ai acheté ma première culotte à 9 ans avec mon argent propre. Donc, si vous voulez attendre que vous finissiez vos études pour entreprendre, vous êtes en retard. Commencez maintenant. Le piège, c'est que la plupart des gens croient qu'après avoir étudié, vous êtes prêt. Non, non. Faites vos erreurs quand vous êtes jeune. C'est plus à l'aise avec 200 francs, tu perds 200 francs, ce n'est pas grave. Mais quand tu perds 2 millions, vous risquez d'être déprimé. Commencez avec des petits moyens que vous avez. Lancez-vous. Quand j'étais encore élève, j'étais des bons. Je vendais des arachides. Des arachides avec du sel. Là. Après, quand je suis allé à secondaire, parce qu'à Litige, on avait des gonds. Ce n'était pas facile de faire les commerces. Je me suis converti à la vente du pétrole. Vous voyez, déjà secondaire, quand on quittait Litige, le soir, j'ai tapé la bouteille pour circuler autour du quartier et j'avais mes quelques francs. Et les Zaïres à l'époque, les Makuta, vous êtes Congolais, nous, on était des Zaïrois. Nous sommes des citoyens. Et quand je suis allé à l'université, c'était la même chose. À Kinshasa, quand j'étais là, il y avait Sibé Zaire qui était ici. En tant qu'étudiant, je vendais les haricots qui venaient du Kivu. Et vous savez ce qui se faisait au Kinshasa? J'étais le boss de l'école. À Kinshasa, je pouvais vendre tout un sac de plus de 120 kilos pendant 2 heures, à les mesurer avec des verres. Vous imaginez? Et les mamans connaissaient mon nom. Et ça me payait des petits frais comme des syllabus. Et quand je suis arrivé au Rwanda, c'était un peu différent. Il y avait des business, on était internés. Je me suis engagé au cafétéria de l'école. Je servais quand on faisait les services du soir. J'étais le servant et je servais les autres étudiants. Et chaque week-end, c'était une université adventiste. Chaque week-end, on me donnait des francs rwandais. Pendant que mes amis qui étaient encore étudiants, attendaient l'argent de poches de leurs parents. Mais moi, je n'ai pas fait ça. J'entreprenais toujours. Et qui m'a formé dans tout ça? C'est ma mère, la plus grande de tous les temps. La plus grande professeure d'entrepreneur, c'était ma mère.
Elle m'a appris tellement de choses et que je vais partager avec vous. Ce n'est pas l'argent qui travaille, ce n'est même pas les diplômes, c'est votre cœur. Si vous avez un cœur, peu importe les difficultés, commencez et ça va marcher. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, quelque chose qui t'appartient, j'aimerais le dire à Kinande, c'est plus facile, je sens que c'est comme il me disait, « Aka uka ki travaluwa, aka vene kalio muiwe. » Pour dire quoi? Ce qui t'appartient, c'est facile de les retrouver. Mais ce qui appartient à la poche de le trouver, c'est dans les roches. Il faut casser les pierres pour l'avoir. Vous pouvez imaginer comment ça fait. Alors ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui me fait pousser. Je ne demande jamais de l'aide, parce que je sais que ça vient de la poche de quelqu'un d'autre. Alors il faut encore commander, faire des acopies, des courbettes pour avoir 200 francs. Non, non. Je sais là où trouver. Et il m'a appris où trouver l'argent. Simple. On trouve l'argent dans tout ce que vous pouvez multiplier. Point barre. Oui. Vous pouvez multiplier des choux, des carottes, de tout ce que vous pouvez imaginer et vous aurez l'argent. Et quand j'étais en Ouganda, ça c'était au Rwanda, comme étudiant, j'ai payé mes études de licence quand j'étais dans un cabinet d'un autre architecte ougandais où je prestais comme assistant. J'ai opté l'option soir pour me permettre de travailler la journée et le soir, j'ai continué les études. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Et c'est très important pour ceux qui veulent entreprendre en état étudiant. Ça vous permet non seulement d'avoir la vie professionnelle tout en état étudiant, mais ça vous connecte au monde professionnel. C'est pourquoi il y a beaucoup de chômeurs dans nos églises. Ils attendent qu'ils terminent. Quand ils sortent, qui les connaît? Personne. Mais quand vous êtes dans les sillages des gens qui travaillent, vous avez des connexions. Vos patrons, les ex-clients de vos patrons peuvent vous chercher et vous commencez à constituer votre agenda et vous propulsez dans le monde entrepreneur. Sinon, c'est très difficile. Quand vous quittez l'université, ça va vous prendre 3, 4, même 5 ans sans avoir de l'emploi parce que vous avez attendu de terminer d'abord les études. C'est ça le piège avec les études. Merci. Pour aujourd'hui, c'est un peu ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Sinon, Madame Judith, je reviens à vous encore. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces études pour se rassurer que nous sommes compétitifs sur le plan sur le marché de l'emploi.
Merci.
Se rassurer que nous sommes vraiment bons, que nous pouvons tenir, que nous avons assez de compétences.
Merci. L'essentiel de la réponse, Papa Bukundzika venait de la donner, sauf qu'il parlait pour les entrepreneurs. Mais je vais peut-être redire la même chose en tenant compte de toute catégorie de personnes confondues. C'est que d'abord, être étudiant n'est pas une profession ni une casquette à temps plein de laquelle on peut vraiment grandir partout. Parce qu'aujourd'hui, on a un défi. On rencontre les jeunes et on leur demande « qu'est-ce que tu fais ?» Même si vous faites passer ici des listes de présence, les gens vont vous écrire « étudiant ». Et ce n'est pas une casquette sociale à proprement parler, si je peux le dire ainsi. Et on a pris ça comme quelque chose à temps plein. On voit effectivement déjà attendre de finir pour commencer à penser à la vraie vie. Parce qu'il y a un défi réel qui est celui de savoir que lorsque vous finissez vos études, la vraie vie vous fait face. Même les parents les plus responsables vont s'arrêter un peu et vous regarder et voir comment vous allez vous débrouiller en tout cas. Donc si vous attendez ces moments-là pour maintenant commencer à vous déployer, vous sentirez que vous n'avez pas suffisamment des ailes pour prendre la hauteur. Donc le conseil, c'est de dire, formez-vous pendant vos vacances. Le contradictoire, c'est de voir beaucoup de gens en vacances préparer l'année prochaine au lieu de préparer la vie, en fait. Les vacances qu'on nous donne, ça devrait nous aider à nous auto-former. Soyez bénévoles dans des organisations, même des organisations locales. Je pense que c'est comme ça que moi-même, j'ai commencé. Des organisations locales, parce que quand vous finissez, vous aurez nettement l'impression qu'ils vous exploitent, parce que vous avez besoin tout de suite de subsister. Mais si vous commencez en même temps avec les études, quand même vous apprenez, comme on nous l'a dit le dimanche prochain, vous intégrez un réseau vous montrer aussi de quoi vous êtes capable. Ce qui fera que déjà vous saurez les portes auprès desquelles frapper lorsque vous allez finir vos études et être plus exigeant parce que ça sera le moment de réclamer le salaire de tout votre travail passé. Donc, ne prenez pas le fait d'être, même en médecine, on peut faire aussi la médecine en train de faire autre chose. Si vous êtes entrepreneur, entreprenez. Si vous avez besoin de vous former dans un certain domaine, formez-vous. Si vous avez besoin de travailler dans des organisations, soyez déjà bénévole, volontaire. Si vous avez besoin de faire des grandes études, soyez là à lire peut-être des ouvrages qui vous intéressent. Et peut-être à intégrer, je ne sais pas moi, de plateformes qui peuvent vous aider plus tard à vous inscrire et continuer vos grandes études. Donc, c'est un peu ça, mon apport par rapport à ces questions.
Merci. Merci beaucoup, Madame Judith. Maintenant, pasteur, je veux parler pour ceux qui veulent peut-être embrasser les études de théologie. Coucou, mais maintenant, en théologie, après. Voilà, coucou, bébé, comme théologie. Ah, voilà, je veux parler pour le frère. Alors, apparemment, en RDC, il n'y a pas où on postule pour être pasteur. Donc, à quoi qu'il y a, c'est mes offres d'emploi, ma pasteur, ma imazam théologie et tout. Alors, qu'est-ce qui garantit le futur d'un étudiant en théologie? Parce que si c'est un étudiant en droit, il se dit, bon, je vais aller postuler dans tel cabinet, je vais être pris, j'aurai le salaire. Mais non, pour un théologien en RDC, qu'est-ce qui garantit son futur? Voilà.
Voilà pourquoi les gens sont toujours déçus lorsqu'ils finissent les études, ne trouvent pas le salaire qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont voulu avoir. Vous voyez, par exemple, quand vous dites, bon, quelqu'un fait la médecine, il fait quoi? Parce qu'il sait qu'il sera médecin et il va avoir son salaire. Quelqu'un peut être médecin et il n'aura pas de salaire. Nous les connaissons ici et ils ont fait temps perdu. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas c'est à quoi ils sont appelés. En fait, il est vrai qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas... Là où on peut déposer... une demande pour être affecté ou avoir un emploi de pasteur. Il y a l'organisation. Il y a une organisation et lorsque Dieu nous appelle à son service, il ne nous appelle pas pêle-mêle, si je peux le dire de cette manière-là. Dieu est organisé. Et quand il est organisé, il ne peut pas permettre que l'institution qu'il a lui-même formé, soit désorganisé. Et c'est pourquoi il met une organisation par laquelle vous pouvez passer pour devenir pasteur. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui et dire, bon, je deviens pasteur maintenant. Je vais donner le cas ou l'exemple de la CBK. Pour être pasteur dans la CBK, il faut d'abord vous sentir que vous avez été appelé par Dieu. Vous devez vous sentir que vous avez été appelé par Dieu pour ce service-là. Parce que j'ai dit au début, il faut tenir compte de ça. Au début, j'ai dit que tout ce que vous faites, c'est une vocation. C'est une vocation. Alors, sentez-vous d'abord que vous avez été appelé réellement par Dieu et pour ce service-là. Et il faut que la congrégation aussi remarque votre appel. Il est possible que Dieu remarque votre appel, que la congrégation aussi remarque votre appel, et Dieu vous envoie à Ninive. Vous prenez même le bateau pour Ninive, mais arrivé, vous allez à Tarse, comme Jonas l'avait fait. Il y a plusieurs personnes par influence. Ils sont appelés à être serviteurs par la pastorale, mais par l'influence des autres, ils disent, en tout cas, moi, je ne peux pas faire ça. La Bible dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Si la voix de Dieu est déjà dans votre cœur, que vous devez faire ceci ou cela, aussi longtemps que vous ne le ferez pas, le Seigneur ne vous laissera pas calme. Que ça soit en médecine, que ça soit dans tel domaine ou tel autre. Alors, la CBK, comme je parlais de l'exemple de la CBK, est organisée de telle manière que vous avez senti l'appel de Dieu, l'Église aussi a reconnu votre appel. On vous met maintenant dans ce processus. Vous allez à l'Église, par exemple à Gomaville, vous allez faire la théologie. Il faut que nous sachions que réellement, ce que vous voulez faire, c'est ça. Et il faut que ça se sente dans votre manière d'être à l'Église. On vous donne une lettre de recommandation à la faculté de théologie. Lorsque l'Église vous recommande, ça veut dire l'Église reconnaît que lorsque vous allez finir, l'Église va vous utiliser. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire la théologie sans recommandation. Si vous voulez faire la théologie comme une étude pour élargir vos connaissances sur la Bible, vous pouvez aller faire la théologie. En ce moment-là, il ne faut pas attendre que l'Église vous utilise comme pasteur. L'Église peut vous utiliser comme prédicateur. L'Église peut vous utiliser comme quelqu'un qui peut aider dans l'édification de l'Église, mais pas comme pasteur parce que l'Église ne vous a pas recommandé. Alors, pour dire quoi? Quand vous faites la faculté de théologie, dans l'objectif de devenir pasteur, vous avez suivi les normes qui sont établies par votre Église, je peux dire que l'emploi est garanti. Je peux le dire comme ça. Mais si vous le faites, vous poursuivez vos propres connaissances, vous voulez augmenter vos connaissances, vous pouvez ne pas être. Mais l'Église, si elle remarque que réellement, même si elle ne vous avait pas donné la recommandation, remarque réellement que votre manière d'être, c'est un serviteur de Dieu. Elle peut vous amener dans l'Église.
Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes déjà presque à la fin de ce panel. Alors, il y a une dernière question que je vais nous poser à tous. C'est de savoir comment est-ce que votre foi a impacté le choix de votre carrière ou le choix de ce que vous faites aujourd'hui. Commençons par Papa Bukundika, ensuite Madame Judith et enfin le pasteur.
Oui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la Bible même. Dieu ne nous a pas créés pour être employés, il nous a créés pour être déployés. Il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent faire ça. De Genèse en Apocalypse, tout ce que Dieu a fait, c'est avec les entrepreneurs. C'est la main de Dieu pour créer son royaume, l'entrepreneuriat. Il a commencé avec Noé, l'entrepreneur. Il va avec Abraham. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens se tapent la poitrine en disant qu'ils sont fils d'Abraham. Et quand on les regarde, on ne voit pas Abraham en eux. Abraham, quand on nous enseigne, la plupart des fois, on souligne seulement un seul aspect d'Abraham dans nos églises, l'aspect foi. Mais on oublie que c'était un entrepreneur de tous les temps. Et Dieu a utilisé des entrepreneurs partout. Et quand vous entrez dans l'histoire même de l'Église, quand on parle maintenant du christianisme, les premiers disciples de Jésus étaient des entrepreneurs. Les pierres, ils étaient des armateurs, en fait, ils avaient des bateaux et tout. D'ailleurs, Jésus était fils d'entrepreneur. Joseph était dans l'industrie de construction, il était charpentier. Et Jésus, il écoutait bien les entrepreneurs. Il les comprenait mieux par rapport aux autres. Et quand vous chantez des hymnes, ici, le tombeau est vide. Et beaucoup de gens ne croient pas qu'il y avait un Joseph d'Arimathée, un entrepreneur de qualité qui a construit ça. Personne ne le dit. Et nous, on nous dit que quand on fait l'entrepreneuriat, nous sommes la main de Dieu pour l'édification de son royaume. Et l'entrepreneuriat, partout. Dans les domaines théologiques, on dirait des missionnaires. Un missionnaire, c'est un entrepreneur. Il défriche les chemins pour les pasteurs, les apôtres, et tous ceux que vous connaissez. Il commence à voir des entrepreneurs. Alors, c'est pourquoi j'ai fait le choix d'être entrepreneur, parce que je trouve que je vais être la main de Dieu pour l'édification de son Église.
Merci beaucoup.
Oui, la question, c'est de savoir comment la foi
a aidé à choisir votre carrière.
Merci. La foi m'a aidé à choisir ma carrière, bien évidemment. Et ma foi a été basée sur le psaume 86, verset 4, qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, en fait. Et la sœur qui était ici le disait le dimanche passé qu'elle savait que, vu le Dieu avec lequel elle marche, elle ne pourrait pas avoir le même schéma que d'autres. Et pour moi, le chemin tout tracé, Dieu les a placés dans mon cœur. Et je ne fais que me ranger du côté où il m'a demandé de me ranger. La foi m'a permis de laisser passer des très bonnes opportunités, mais celles que j'ai compris qu'elles n'étaient pas les miennes parce que Dieu me préparait encore. J'ai vu des coordonnateurs de grandes organisations s'asseoir au devant de moi et me dire « Est-ce que tu veux venir travailler avec nous ?» Et j'ai dit « Non, non, je ne viens pas. » Pourtant, l'avocature ne paye pas tant que ça, mais bon. Comme c'est un peu aussi de l'entrepreneuriat, comme Kundika le disait, pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Mais la foi, c'est celle qui te permet de ne pas paniquer, de ne pas tout embrasser, de ne pas aussi briser tes valeurs, de ne pas renier la foi, ou même de ne pas cacher Jésus parce que tu veux saisir une opportunité présente. Donc, c'est la foi qui te permettra de garder ton identité. C'est elle qui te distinguera et c'est elle qui fera qu'on te cherche pour cette valeur ajoutée que toi tu as et que d'autres n'ont pas, une foi qui est bâtie sur le roc qui est Jésus. Je crois que Jésus est cette chose qui te qualifiera devant tous les jeunes qui peuvent chômer. Mais si ta foi est bien bâtie sur Jésus, Jésus investira en toi pour que tu sois une personne différente et distinguée. Et bon, parfois aussi, le travail te cherchera si tu veux travailler. Et voilà, pour moi, en fait, c'est ça la foi.
Merci beaucoup. Pouvons acclamer pour cette réponse. Ouais. Bienvenue, pasteur.
Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais peut-être échanger la question qui a été posée. Que feras-tu après tes études? Après avoir suivi tous les débats depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, peut-être, que feras-tu après tes études pourra être échangé par « Comprends-tu ce que tu fais ?» Le dimanche passé, nous avons parlé de « Apprendre, servir et travailler. » Comprends ce que tu es en train d'apprendre. Comprends ce que tu es appelé à servir, comprendre ta société. Comprends aussi le travail que tu es appelé à faire. La Bible nous dit la connaissance. Oui, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire pour les études que nous faisons. Nous ajoutons la connaissance. Mais je vous dis, si nous étudions, je l'ai déjà dit au début, pour avoir des diplômes, alors nous allons échouer dans notre vie. Étudions, comprenons ce que nous sommes en train d'étudier pour que nous nous sentions appelés dans les domaines que nous sommes en train de vouloir embrasser. Comment tu sauras que tu es appelé à être médecin? Comment tu sauras que tu es appelé à être juriste? Tu es appelé à être enseignant. Est-ce que d'abord tu te sens heureux dans cette casquette-là? Lorsqu'on va t'appeler médecin, est-ce que tu seras heureux? Lorsqu'on va t'appeler pasteur, est-ce que tu vas prendre ça comme une injure ou comme un honneur qu'on est en train de te donner? Tu es en train de faire la médecine, mais tu ne supportes pas de regarder la plaie. Non, non, si tu ne supportes pas regarder la plaie pendant que tu fais la médecine, c'est que tu t'es déjà perdu. Tu dois sentir, tu te sens à l'aise lorsque tu es dans le domaine là pour lequel tu es en train d'étudier. Vous êtes en train de faire l'agronomie à l'Unigom. Mais si nous arrivons chez vous à la maison, il n'y a même pas un jardin. Pendant que vous faites l'agronomie, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? J'insiste sur le verbe comprendre. Comprendre ce que tu fais.
pour que tu apprennes, tu serves et que tu travailles. Et le Seigneur, qui a l'intelligence, qui est au-dessus de toutes sortes d'intelligence, vous accompagnera dans tous les domaines que vous voulez embrasser. Ayez la foi en Christ, ayez la foi à Dieu, parce que si nous sommes ce que nous sommes et ce que nous serons, c'est la foi qui nous y amène. La foi qui nous y amène, c'est la foi qui nous y amène. Que l'Éternel vous bénisse.
Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Pour finir, nous allons entendre aussi vos réponses à cette question. Que ferai-je après mes études? Faites comme si vous étiez en train de me dire, Papa Bukundika, qu'est-ce que je dois faire après mes études?
Je ferai la même chose, l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a une chose qui m'intrigue souvent, de voir la plupart des chrétiens sont chômeurs. Ça, c'est une question très grave. Parce que c'est une insulte à Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvriers. Mais comment on peut avoir des chômeurs là où il y a une moisson grande? Et ça, c'est une question qui me... C'est qu'il y a quelque part, l'Église a échoué à organiser les gens. Parce qu'en principe, on ne devrait pas avoir des chômeurs à l'Église. En principe. Mais s'il y a des chômeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu dérouté. Parce que l'Église nous présente une Église un peu handicapée, où on voit tout le monde veut aller au ciel, tout le monde veut être bon, d'accord, très, très spirituel, ils oublient l'aspect matériel. C'est là où ça choque. Et quand on dit, qu'est-ce que je ferai après mes études, ça sera toujours l'entrepreneur, parce que je trouve que c'est la partie handicapée de l'Église. Vous imaginez, avec tout ce que nous avons, beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'Église est un parti politique. Ils ne savent pas, parce qu'on n'a pas parlé des politiciens ici. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes appelés à produire. Ça, c'est un péché de chrétien. Si vous, heureusement, nous avons une spécialité des livres de Jean. Si vous lisez Jean 15, Jésus lui-même dit ça, 15:8. Il dit, si vous ne produisez pas, vous n'êtes pas appelés mes disciples. Si vous ne produisez pas, alors vous pouvez venir chanter ici, vous n'avez rien produit. Vous n'êtes pas les disciples de Jésus, mais l'entrepreneur sera déjà là.
Merci beaucoup. Comprendre, entreprendre. Et vous, Madame Judith, que dois-je faire après mes études?
Après mes études, il faut, et même pendant, et même après, il faut investir mon temps libre dans mon développement personnel. Voilà.
Merci beaucoup. Pasteur, vous avez encore quelque chose à ajouter?
Je voudrais aussi répondre à cette question. Que ferai-je après mes études? Mais ma réponse va vous choquer. Après mes études, je vais mourir. Voilà comment ma réponse va vous choquer. Parce que il n'y a pas de fin d'études dans la vie. Il n'y a pas de fin d'études dans la vie. Nous allons finir pour avoir des diplômes, mais nous allons continuer à apprendre, à étudier. Et cette étude prendra fin le jour où vous serez à Macao.
Nous disons merci. Nous disons merci à Dieu pour ces panels très, très, très édifiants. Donc, après tes études, que feras-tu? Tu vas mourir. Et donc, merci beaucoup. Merci à ces grands hommes, à cette grande dame que Dieu nous a envoyés aujourd'hui. Je vous rappelle encore ici que nous les avons pas choisis. Parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils sont plus expérimentés que vous qui êtes là. Mais c'est le Saint-Esprit qui les a choisis, qu'ils soient porteurs du message qu'ils ont eu à nous donner aujourd'hui. Et donc nous allons glorifier Dieu par nos acclamations pendant que nous sommes en train de rentrer pour ce qu'il nous a communiqué aujourd'hui. Merci beaucoup. Continuons à acclamer s'il vous plaît pendant que je suis en train de rentrer.